Carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't
anybody see? Bonjour à tous, nous recevons pour ce nouveau carnet de voyage Nicolas Chassin, bonjour.
Bonjour.
Tu vas nous parler du Zambèze, qui est un fleuve immense et qui est pour le kayak une perle en or. Alors bien entendu, tu y as été, tu as fait la descente de ce fleuve, mais tu as aussi travaillé là-bas, tu as travaillé au Zimbabwe et en Zambie, qui est le pays à côté, limitrophe. Évidemment, j'ai envie de te dire comment est-ce qu'on devient kayakiste de l'extrême, on peut dire, c'est-à-dire être capable de descendre des fleuves tortueux, difficiles.
Et de fil en aiguille, j'ai commencé le kayak très jeune, à l'âge de 10 ans. Et donc j'ai commencé donc avec les disciplines traditionnelles, là, le slalom et la descente, ce qui équivaut un peu au slalom et descente à ski, voilà. Et petit à petit le matériel a évolué là dans les fins des années 90 et on a pu commencer à descendre des rivières plus difficiles avec un matériel adapté et de là s'est ouvert donc la possibilité donc de descendre des rivières, de s'amuser sur les rivières, de surfer les vagues que les rivières créent. Et le Zambèze est vraiment la rivière modèle pour tout ça. Et donc voilà, j'ai voulu aller là-bas et découvrir ce fleuve.
Oui, tu m'avais dit que le fleuve était emblématique de ce qu'on peut faire en kayak, qu'il y a des vagues énormes, des rapides fabuleux, des eaux très chaudes. Le rêve.
C'est le rêve, c'est vraiment c'est une rivière où la section intéressante, la section, comme on peut dire, pas extrême, mais bon, la section où vraiment on a les plus beaux rapides, se situe juste l'embarquement et au pied des chutes Victoria. Donc, on peut pas rêver d'un embarquement meilleur que ça.
Ouais.
On embarque dans une eau qui est chaude, une météo archi favorable et des rapides volumineux qui sont entrecoupés de petits lacs. Donc, on peut se permettre de descendre des rapides très gros et on a ces lacs en bas pour récupérer avant d'enchaîner le deuxième. Si on prenait les rapides du Zambèze et qu'on les collait les uns aux autres, on pourrait quasiment pas le descendre ou ça serait réservé vraiment à l'élite. Mais grâce à ces, on appelle ça des pool drop en anglais. Pool, ça serait donc la piscine et drop, ça serait la chute. Donc voilà, c'est un rapide, une succession de rapides et de zones calmes et tout ça pendant une journée pour les meilleurs rapides, mais ça continue sur une deuxième journée, une troisième journée et je dirais qu'à partir de la quatrième journée, on commence à avoir un cours d'eau plus tranquille.
Ok. Ouais. Et donc, si tu veux faire le Zambèze en entier, il te faut plusieurs jours quand même, malgré le fait qu'il y ait les moments de repos.
Ouais, la section vraiment. Donc, c'est une rivière sur laquelle on peut faire du raft, d'accord. Le raft a commencé fin des années 80 là-bas, donc tout doucement. Et la section vraiment la plus intéressante, c'est la première journée, voilà, du pied des chutes Victoria, et on descend à peu près une trentaine de kilomètres. Dès qu'on part un peu plus bas, ça devient de la descente en autonomie, d'accord? Puisqu'il n'y a pas d'accès, il n'y a que quelques points d'accès, c'est une gorge. Et dans ce cas-là, il faut partir avec des rafts, tout le matériel de camping, la bouffe, etc. Donc la première journée est vraiment celle qui est le plus utilisée. Par contre, on a de temps en temps des voyages de plusieurs jours.
Ok. Et quand tu dis avec du matériel adapté, je pense en monoplace, tu veux dire, on parle pas de rafting, on parle de kayak. Ouais. Ça, ce matériel adapté, en définitive, tu avais créé quelque chose qui avait étonné les gens aux USA.
Ouais.
Tu avais été avec un prototype aux USA.
Ouais. Donc, le kayak, ça a pris exactement le même virage que le ski. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une discipline slalom descente et ça se cantonnait un peu à tout ça. Puis le matériel s'est développé et on a pu descendre. Bon, déjà des kayaks en plastique sont arrivés, donc plus solides, qui permettaient de taper des cailloux et de descendre des rivières quand même plus caillouteuses et plus pentues. Et le Zambèze. Enfin, je me rappelle plus de la question.
Savoir si ces kayaks prototypes que tu avais essayé aux USA permettent de descendre le Zambèze plus facilement.
Ouais. Donc les kayaks étaient quand même relativement longs et on a eu l'idée de raccourcir nos kayaks. Voilà. Donc c'est avec un ami à moi, on a pris des kayaks de slalom et on a commencé à les recouper. Et en 94, d'accord, où les kayaks faisaient quand même à peu près 3,20 m, 3,50 m de long, on est arrivé, nous, moi je suis parti aux États-Unis avec un prototype d'un kayak que j'avais fait qui faisait 2,20 m. Voilà. Et sans vraiment le savoir, c'était une révolution. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait les kayaks beaucoup plus maniables, qui surfaient les vagues beaucoup mieux. Et voilà, donc j'arrivais, par exemple, je suis parti aux États-Unis sur une rivière qui s'appelait la Golée. C'était un regroupement vraiment de tous les kayakistes des États-Unis. Et je me suis retrouvé au milieu de tout ça avec ce kayak révolutionnaire. Donc c'était un bon départ, un bon tremplin de lancement pour récupérer des sponsors et montrer un peu ce que je savais faire. Quoi.
Oui, tu as fait sensation. Ouais.
Exactement. Sans le vouloir, j'ai fait sensation. Parce que je suis parti là-bas avec $500 en poche et sans savoir vraiment où j'allais. Et grâce au bateau, j'étais invité de partout et ça a été une porte fantastique, quoi, qui m'a ouvert plein de débouchés, quoi.
Et surtout, tu as entériné le profil du petit Frenchie génial. Le petit Frenchie qui arrive avec son petit truc, qui a pas de sous, qui est jeune et qui va révolutionner le marché.
Ouais, exactement. On m'appelait là-bas le Crazy Frenchman.
Ouais, voilà.
Et mon bateau, il l'avait baptisé, je crois, le Cercueil. Parce que c'était tout petit, beaucoup plus petit que les autres.
Ouais.
Mais au final, c'était maintenant les bateaux, je veux dire, ils faisaient 2,20 m. Maintenant, on a des bateaux qui font moins de 2 m.
D'accord.
Pour surfer des vagues. Pas pour descendre les rivières, mais pour surfer des vagues.
D'accord. Voilà. Et ceux qu'on voit à la télé qui descendent des grandes cascades, c'est des petits kayaks comme ça de 2 mètres ?
Non. Les petits kayaks, c'est comme une planche de surf pour surfer les vagues que l'on trouve sur les rivières. À la mer, donc, c'est exactement le même principe. Et c'est juste la houle qui arrive sur la berge et qui arrive sur des fonds beaucoup moins profonds. Et en rivière, c'est le courant qui passe au-dessus d'un caillou qui forme une vague. Et suivant le débit de la rivière, donc ici les rivières des Alpes n'ont pas énormément de débit, donc on a des vagues, mais elles sont relativement petites, sauf au moment des crues. Sur le Zambèze, on a en permanence au minimum 500-600 mètres cubes qui montent jusqu'à 10 000 pendant la saison des pluies. Donc là, on a vraiment des vagues qui ressemblent à des vagues que l'on a à la mer. Donc on surfe avec ces petits kayaks avec un fond plat, très court, très maniable et qui permettent de faire toutes les figures, plein de figures, ouais.
Mais on se pose une question de béotien, là, de débutant. Comment est-ce que les jambes peuvent se tenir? Plus le kayak est court, devant, tu as moins de place, non?
Et il faut pas être grand. J'ai la chance de pas être grand. Mais il y a juste là. Bon, moi, mon kayak, même court, il faut que je mette de la mousse au fond pour me caler. Mais un peu plus grand, et les gens ont quasiment les pieds au fond dans ces kayaks. Ouais,
ouais, voilà.
Ouais. Et les très grands, changer de sport.
Ouais. Alors on parlera en deuxième partie de la partie technique du freestyle, hein, qui se joue aussi avec des kayaks courts. Mais là, on va parler un petit peu des 13 ans que tu as passé au Zimbabwe et en Zambie. Mm-hmm. Donc en définitive, tu as travaillé pour multiples sociétés et tu as fini par créer la tienne ou récupérer la tienne.
Ouais. Donc je suis parti j'avais raté mon bac en 94 là. J'en avais un peu marre de l'école. Je parlais pas anglais, c'est pour ça que je l'avais raté mon bac. Et j'ai essayé de dire justement à la prof, je me rappelle, qui me faisait passer mon anglais, que je partais aux États-Unis, donc j'allais l'apprendre, mais elle m'a quand même mis 4 sur 20. Donc,
ouais.
Donc je me suis planté au niveau du bac. Je suis parti aux États-Unis quelques mois. Je suis rentré en France pour travailler, économiser un petit peu. Et je suis reparti au Zimbabwe pour aller découvrir ce Zambèze. Qui me paraissait juste fabuleux, quoi. C'était vraiment la rivière. J'avais jamais vu ça, quelque chose d'aussi beau et d'aussi gros, avec des rapides et des vagues aussi bien formées, quoi. C'était fabuleux.
Ouais.
Donc je suis parti là-bas et je me suis retrouvé au Zimbabwe, pareil, avec $500 en poche et avec un billet aller-retour, mais bon, le retour ouvert pour que je puisse revenir si j'avais plus d'argent, quoi. Et au final, je suis arrivé là-bas et j'ai tout de suite travaillé en raft et en kayak. Et ce qui m'a permis de rester quasiment 8 mois, je crois, la première fois. Je suis rentré en France pour faire la saison d'été. Et puis au final, je me dis, la saison d'été en France, elle n'est pas si intéressante que ça. Je crois que je vais rester toute l'année là-bas. Donc, je suis retourné. Puis de fil en aiguille, j'y suis resté 13 ans au final. entre le Zimbabwe et la Zambie.
Et en définitive, tu as migré vers la Zambie, un peu contraint et forcé par l'atmosphère politique du Zimbabwe, qui était moins stable.
Ouais, le Zimbabwe, c'était le paradis sur Terre, ce pays, dans les années 90.
On imagine, ouais.
C'était fabuleux. Je veux dire, c'est le pays qui a le plus, qui avait le plus gros niveau d'éducation du continent africain. C'était vraiment un pays où, voilà, tout le monde produit, enfin, le pays produisait, était complètement autonome, un des premiers exportateurs de tabac au monde. Enfin, c'était vraiment tout marché. Et dans les années 2000, là, il y a eu, bon, je vais pas rentrer un peu dans tous les détails, sinon ça va durer très longtemps. Mais voilà, l'atmosphère politique s'est un peu dégradée et le Zambèze fait la frontière. Les Chutes Victoria sont la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Et la Zambie, qui a vu leur indépendance beaucoup plus tôt que le Zimbabwe, était un peu dans un mode reconstruction.
Ils avaient épuré un petit peu, ouais.
Voilà, et donc ils se reconstruisaient. Donc là, le Zimbabwe, c'était de plus en plus dur d'y travailler, d'y vivre. Donc on a décidé de déménager. Enfin, déménager, c'est 10 kilomètres.
Hein. Ouais,
c'est
ouais.
Juste traverser le Zambèze. Et d'aller faire du raft et du kayak côté Zambie. Exactement la même chose. Mais au lieu d'embarquer sur la rive droite, on embarque sur la rive gauche. Voilà.
Ouais, okay.
Et débarquer sur la rive gauche aussi, tant qu'à faire.
Ouais, donc tu as transposé exactement ce que tu faisais de l'autre côté de la rivière.
Ouais, c'était exactement pareil, sauf que l'infrastructure, les routes, c'était moins efficace que le côté Zimbabwe. Mais voilà, c'était la même chose quasiment. Ouais.
Alors, ça t'a permis de faire 10 ans quand même comme dirlo de la boîte de raft.
Ouais, donc à force de travailler, bon, j'ai fait plein de trucs. Hein. Moi, j'adore faire des choses, donc de faire du raft et du kayak, ça me suffisait pas. Donc à un moment, Je fabriquais des pagaies, je louais des vidéos, des films. On appelait ça un vidéoclub. J'avais un petit vidéoclub. Enfin, je m'occupais. Un vidéoclub, j'ai eu une pizzeria à un moment. Mais tout ça en plus de mon travail sur la rivière. Et au final, mon travail principal, ça a quand même été d'être le gérant d'une boîte de raft pendant 10 ans.
Ouais. Ok, alors on va faire une petite pause musicale avec un morceau local, un morceau d'un gars de là-bas, qui a le nom d'un serpent, le Black Mamba, Black Mamba Man.
Black Mamba Man, ouais, c'est un artiste local là, de Victoria Falls, donc côté Zimbabwe. Et sa chanson, c'est Wake You For Days. Et ça parle des longues queues que les gens ont dû faire pendant des années au Zimbabwe pour trouver de l'essence, pour trouver de la farine, de l'huile, enfin tous les ingrédients nécessaires essentiels à la vie, voilà.
Et toi, t'es arrivé après cette période, ouais?
Non, moi j'étais là avant. Dans les années 90, le Zimbabwe, ça tournait comme sur des roulettes, c'était parfait. Et c'était les années à partir de l'an 2000 que les problèmes ont commencé. Donc entre 2000 et 2010, bon, ça continue encore, hein, les problèmes. Mais il y a eu des moments difficiles. Ouais.
Ok, alors on écoute. Et en deuxième partie, on parlera de ton retour au pays des écrins et du freestyle.
IQ for days, IQ for maize, cooking oil, sunflower, sugar, mayonnaise, fuel. Oh, praise IQ for days. Hours in and we're almost there. So close I can smell the fuel, I swear. Looks like another 300 meters before I can get my 20 liters. Soon we'll be driving with the wind in our hair. But hey, the queue has been hot my way. Sweating in the car, trying to keep my composure and break off. Let's nudge a little closer. Me and my friends, we're doing shifts in the queue. Hopefully we can both get some fuel. He's got his jerry can in the back. They took the fuel attendant. Say Jack, 'cause hey, the queue has been moving so slow. But now check, only 4 more cars to go. And just as we were about to be there, the fuel attendant says, I'm full of fuel, it's pelile. Now what? IQ for days, IQ for maize, cooking oil, sunflower, sugar, mayonnaise, fuel all grace. IQ for days.
Nous sommes toujours avec Nicolas Chassin. On a promis de parler de ton retour. Tu as eu l'appel des montagnes. Tes parents habitaient dans le Queyras. Ça t'a un peu aidé à revenir. Et peut-être aussi le coup de foudre des rivières d'ici qui te manquait.
Bon, déjà, quand on a décidé de partir de Zambie, j'ai vendu la boîte de raft. Et donc, il fallait, après avoir vécu en Afrique, dans un environnement quand même très nature, hein, puisque c'est des villes. Enfin, j'habitais Livingstone, qui est de la taille d'Embrun, disons à peu près, même voire un peu plus petit. Et tout autour, bah, c'est des parcs nationaux, des éléphants, vraiment une nature exceptionnelle. Donc, après avoir vécu là-bas 13 ans, je pouvais pas revenir et habiter dans une ville. Donc, ça, c'était le premier critère. Et c'était un peu évident de revenir habiter dans les Hautes-Alpes parce que j'y ai passé beaucoup de temps et ça correspondait vraiment exactement à ce que je cherchais. Voilà, une nature quand même bien préservée, des villes-villages de taille raisonnable. Et mes parents habitant le Queyras aussi, c'était un plus de les avoir pas très loin. Voilà, donc je suis revenu m'installer à l'Argentière quand je suis revenu.
Ok. Et en même temps, tu as fait comme tous les gens au-dessus de 40 ans, enfin après 40 ans, tu as fait un gosse et tout le bazar, et donc tu as besoin que le gosse se stabilise avec une école,
ouais,
pas
ouais,
loin de chez toi.
Bien sûr, on s'est rendu la vie difficile, hein,
ouais.
avec les enfants, et, etc. Mais bon, je crois que c'est le passage de tout le monde et c'est intéressant de toute façon. En Zambie là, donc mes enfants étaient dans une école là-bas que l'on avait créée parce qu'il y avait quand même pas mal d'expatriés, donc on avait créé une école, mais c'était équivalent à l'école primaire. Et passé l'école primaire, il faut envoyer ses enfants. Donc moi, j'habitais à Livingstone, à côté des chutes Victoria, et l'école la plus proche est à peu près 500 kilomètres. Donc voilà, c'est de très très bonnes écoles qui coûtent très très cher. Et voilà, il faut pouvoir assurer financièrement. Et par contre, on envoie ses enfants dans un internat à 500 km. Donc, on les voit un week-end sur deux, à peu près, quoi.
Ouais. Et je me rappelle de ton fils qui était venu dans une précédente émission à la découverte du Maroni, émission qui va vous amener un projet 2023 dont on parlera, on dira deux petits mots. Mm-hmm. Ton fils est déjà passionné de kayak.
J'ai un fils, une fille qui a pas trop accroché. Et par contre, mon plus petit, là, qui a 14 ans, est depuis quelques années, là, à fond kayak.
Ouais.
Donc, c'est super parce que quand le week-end arrive, on se pose pas la question de ce qu'on va faire. On va faire du kayak. Et voilà. Donc, pour finir, là, qu'on est rentré, donc, une des raisons pour laquelle on est rentré aussi, c'était juste pour mettre les enfants ma fille au collège déjà, et mon fils dans une école française, quoi.
Ok. Alors, on en revient au kayak. En définitive, le freestyle, c'est quelque chose qui n'était pas au début du kayak. C'est venu après, petit à petit, avec les kayaks qui se raccourcissent.
Ouais, donc c'est exactement comme le développement du ski. C'est-à-dire qu'avant, on faisait du slalom et de la descente sur des pistes damées. Puis petit à petit, le matériel a évolué. On a commencé à sortir des pistes et à descendre, à dévaler des montagnes. Donc, on a le freestyle qui s'apparente vraiment au saut à ski, c'est-à-dire que du slope style, le half pipe, où on s'amuse, on prend une vague d'une rivière et on essaie de faire des figures dessus. Voilà, donc on reste au même endroit et on rentre dans cette vague, on la surfe et il y a tout un répertoire de figures plus ou moins difficiles qui il y a des juges au bord, enfin vous vous entraînez déjà toute l'année et lors des compétitions, il y a des juges au bord qui vous donnent des notes suivant ce que vous faites.
Et voilà. On doit avoir des figures qui s'appellent le looping ou les saltos avant, des choses
là,
comme ça.
Il y en a plein. Il y a plein de, comme dans le ski ou d'autres sports, il y a plein de. Si je vous dis des noms, il y a le loop, ça serait le saut périlleux avant, le back loop, le saut périlleux arrière. Il y a des phoenix monkey, il y a des helix, il y a des kick flip, des shove-its. Enfin voilà, il y en a plein quoi.
Et c'est des figures qui techniquement demandent beaucoup de boulot, des mois de travail. Ou...
Ouais, il y en a des plus ou moins difficiles, mais il y en a certaines. Ça fait des années que j'essaie de les faire et j'y arrive toujours pas.
D'accord.
Donc c'est peut-être à cause de l'âge aussi, hein, qui arrange pas les choses. Mais non, c'est comme le surf à la mer, hein. C'est-à-dire c'est infini, c'est juste l'imagination et. C'est infini le nombre de figures que l'on peut faire et créer. Quoi.
Par contre, la vague, on la visualise bien dans le surf à la mer. Les vagues arrivent mécaniquement, on peut dire. Mmh. Mais la vague sur une rivière, elle n'est pas créée mécaniquement, indéfiniment, à un même endroit.
Donc ouais, une vague de rivière, c'est juste le courant qui, donc dans un rapide, va passer au-dessus d'un caillou. Et ce caillou va créer une pente assez importante pour créer une vague. Et suivant il faut quand même une certaine quantité d'eau pour créer une vague. Mais une vague, c'est une vague statique, on appelle ça, donc qui est toujours au même endroit. On va au bord de la rivière ou dans les contre-courants où on est protégé. Et chacun son tour, on accède à cette vague par le bord. Et on va faire nos petits runs avec nos figures en essayant tout ce qu'on peut. Et on sort avec de l'eau plein le nez, plein les oreilles. Et on retourne au bord et c'est au suivant d'y aller. Et voilà, chacun son tour.
OK. Alors, il y a un mot qui moi, m'a surpris aussi, c'est le play boating. Donc, on a l'impression que c'est un jeu, s'amuser à faire du boat. Mm-hmm. En quoi ça consiste?
Donc, le play boating, on revient encore au ski, c'est l'équivalent du free ride. D'accord? Le free ride en ski, donc c'est monter à ski un sommet et descendre une face d'une montagne en utilisant tout ce que la montagne, les sauts, tout le relief de la pente. Et ben le kayak c'est pareil, le play boating ça sera descendre une rivière et utiliser tous les mouvements d'eau, les cailloux, tout ce que le relief de la rivière pour faire des figures et descendre en s'amusant.
D'accord. Et donc, il n'y a pas une notion de temps et de vitesse. C'est plutôt l'esthétique de la descente qui va compter.
Ouais, le freestyle, c'est vraiment une discipline à part entière, alors que le play boating, ça, c'est plus une façon de descendre une rivière. Voilà. On peut descendre une rivière en simplement la descendant, et on peut la descendre et en essayant de faire des lignes plus difficiles, c'est-à-dire que suivant les rapides, on a plusieurs passages possibles dans un rapide. Et voilà, de passer à un endroit plus difficile, passer en arrière en faisant une roue, en tombant une chute. Enfin, il y a plein de vidéos sur le net, là, c'est inondé de vidéos de gens qui font des choses assez impressionnantes, qui passent des chutes en faisant des figures. Des chutes très hautes en faisant des figures impressionnantes. Ouais.
Ouais. Et toujours pareil, c'est vrai qu'on est très impressionné par les gens qui prennent des chutes assez hautes. Techniquement, comment est-ce que ça se passe? Tu te mets dans le flow de la chute et ensuite, quand tu arrives en bas, tu te laisses exploser?
Ouais, donc il y a plusieurs. Donc suivant, plus la chute est haute, plus l'angle d'arrivée est important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sauter une chute de 15 mètres et arriver le bateau tout à plat.
Ouais.
Sinon, vous ne relèverez pas.
Ouais, ouais.
Donc voilà, l'angle, en gros, la chute, il faut, tout est basé sur, sauter une chute, la descente est facile. Par contre, il faut avoir le bon angle à l'arrivée pour pouvoir pénétrer le bassin de réception, avec le bon angle pour ne pas se faire mal. Voilà. Donc les chutes maintenant en kayak, pour vous donner une idée, je crois que le record de chute est à 54 mètres. Je crois, en kayak. Donc ça commence à faire. Ouais.
Mais à la limite, il y a un côté plané, non? C'est-à-dire que le kayak lui-même entre en plané pendant les 54 mètres.
C'est 54, là, c'est vraiment extrême, mais disons des chutes de 20-25 mètres, ça se passe très régulièrement maintenant. Et donc, il y a une... l'approche, parce qu'une approche d'une chute peut être très difficile, c'est-à-dire que vous avez un rapide d'entrée qu'il va falloir négocier pour arriver sur le bord de la chute et se placer correctement au bon endroit, avec la vitesse, pas trop de vitesse, gérer l'entrée de la chute pour tomber avec l'eau et pouvoir atterrir avec le bon angle. Donc c'est très très technique, quoi.
Ok. Alors tout à l'heure, on laissera ton email pour les gens qui voudraient plus de précisions sur le Zambèze, mais j'avais envie de dire un petit mot sur ce que tu fais en ce moment. Tu t'es recyclé, on a compris que tu étais multi-activiste, tu veux toujours aller de l'avant. Tu t'es recyclé dans les charpentes en bois.
Quand je suis revenu, donc déjà le kayak, donc sur le Zambèze, c'est exceptionnel, donc faire du kayak, du raft. Quand je suis revenu ici en France, j'avais pas forcément envie de faire du raft sur la Durance. Il y a déjà beaucoup de monde et ça m'intéressait pas trop. Et je voulais garder ma passion hors de ma vie professionnelle. Voilà, c'est que si vous faites du kayak toute la journée en club à initié, le soir vous avez plus envie d'en faire pour vous. Donc j'aime bien enseigner, mais je me suis lancé dans la charpente, ouais, avec un ami. On est une boîte de charpente qui s'appelle EcoHome et ça fait 12 ans maintenant qu'on est opérationnel. Et voilà, donc on va de chantier en chantier, on est deux associés. Et voilà, c'est super intéressant. Et après ma journée sur un toit ou à tailler du bois, j'ai qu'un rêve, c'est aller naviguer, descendre une rivière des Hautes-Alpes.
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et tu es plutôt dans la maison individuelle, dans le bâtiment industriel, dans quoi?
Non, on bosse à deux, donc on est obligé de prendre des chantiers qui sont donc faisables avec quatre mains. Donc ça s'arrêtera au chalet individuel. On fait des chalets individuels, on fait des rénovations de granges, des extensions de maisons, des terrasses, des balcons, on pose de Velux, toutes ces choses-là, quoi.
Ok. Un dernier petit mot sur le projet auquel tu vas participer, qui sera en 2023 avec Olivier Combesco. Donc, on avait reçu avec ton fils et deux autres élèves du collège de l'Argentière. Donc, c'est le projet Maroni, la découverte du Maroni guyanais.
Ouais.
Donc, toi, ta place là-dedans dans ce projet, ça va être un peu guide, un peu sur la sécurité de ce qui sera kayak.
Ouais. Donc ce projet, c'est d'amener la sécurité sportive du collège de l'Argentière en Guyane, et donc c'est deux profs de sport et moi, et ma spécialité, moi, bien sûr, ça sera d'encadrer toute la partie sur la rivière, sur le Maroni, donc la partie kayak.
On va laisser ton mail qui est tout bêtement nico@ecohome05.com.
C'est parfait.
Donc pour tous les gens qui voudraient construire des chalets ou des terrasses, qui veulent
apprendre le kayak, pourquoi pas, et en même temps construire une maison, faire une extension, une terrasse, un balcon, contactez-nous, il y a pas de souci.
Ce qui est bien, c'est que tu es polyvalent. Tu peux faire la terrasse qui va descendre sur la rivière avec l'embarcadère directement de la maison à la rivière.
Ouais, ça serait génial. Trouver une maison au bord de l'eau,
ouais,
sur laquelle on peut embarquer devant chez soi et glisser jusqu'à la rivière, ça serait parfait. La mienne n'est pas loin de la Durance, mais quand même 300 mètres.
Ah ouais, quand même.
Ça fait quand même de la distance.
Toi qui es un furieux de nouveaux projets, ce sera bientôt ton nouveau projet d'avoir une maison avec un embarcadère kayak à partir de la terrasse.
J'ai déjà pas mal de projets rénovation, et avant que je les finisse pour pouvoir en recommencer un autre, il va se passer quelques années, je pense.
Bon, merci Nicolas Chassagne de nous avoir plongé dans les Victoria Falls. J'espère qu'on va s'en remettre.
Oui, merci beaucoup de m'avoir invité ici.
À bientôt.
Carnet de voyage. Une invitation.